l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul, au jour le jour. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Hier, le 15 mai, c'était la journée des enseignants en Corée du Sud. Après deux années perturbées par la crise sanitaire du Covid-19, cette année, le pays a célébré cette journée dans un contexte de retour à la normale. Aujourd'hui, nous commençons notre émission en retraçant brièvement l'historique de cette journée aussi importante pour les professeurs que pour les élèves. Rétablir les relations entre les enseignants et les élèves sur la base d'un amour chaleureux et d'un profond respect, restaurer l'éthique enseignant-élève et créer ainsi un bon climat scolaire. Voilà l'objectif de la création de la Journée des enseignants, déclarée en mai 1964 par le Conseil central de la Croix-Rouge jeunesse sud-coréenne. Officiellement, la Journée des enseignants a été instaurée en 1982. Cependant, son origine remonte à 1958. Le 8 mai de cette année-là, les membres du club Croix-Rouge Jeunesse du lycée des filles de Kangkyang, dans la province de Chungcheong du Sud, ont rendu visite à leurs anciens professeurs qui étaient à la retraite ou qui étaient souffrants à l'occasion de la journée de la Croix-Rouge. Au fil des années, c'est devenu une tradition parmi les élèves appartenant à des clubs de Croix-Rouge Jeunesse. En 1963, ils ont décidé de créer une journée pour les professeurs en reconnaissance de leur travail. Le 26 mai 1964, les membres de la Croix-Rouge Jeunesse de tout le pays ont célébré cette journée pour la première fois. Depuis 1965, la date de cette journée a été fixée au 15 mai, en référence à l'anniversaire du roi Sejong le Grand, connu pour avoir créé le Hangul, l'alphabet coréen. En 1973, les cérémonies de la célébration de cette journée ont été suspendues par le régime dictatorial de l'époque. C'est 9 ans plus tard, en 1982, que la journée des enseignants a été rétablie suite à la demande des associations d'enseignants. Cette journée se célébrait chaque année le 15 mai à l'échelle nationale. Et ce jour-là, les élèves offraient des œillets ou autres cadeaux à leurs professeurs pour exprimer leur gratitude. Pourtant, cette tradition de cadeaux a été bouleversée par l'entrée en vigueur en 2016 d'une nouvelle loi anticorruption qui interdit aux professeurs de recevoir des présents de leurs élèves. Un changement qui divise. Certains élèves sont ravis d'être libérés de cette obligation tacite d'offrir des présents à leur maître. D'autres regrettent que l'opportunité d'exprimer leur reconnaissance envers les professeurs leur ait été enlevée. Depuis quelque temps, Séoul perd des habitants du fait d'un nombre plus important de départs que d'arrivées. Au cours de l'année 2020, environ 1,64 million de personnes ont quitté la capitale pour s'installer dans un autre département, tandis que 1,57 million sont venus s'y installer. Or, beaucoup de ceux qui quittent Séoul ne vont pas loin, mais s'installent au milieu de urbains dans la province de Gyeonggi ou à Incheon, située à proximité de la capitale. Le 12 mai, l'Institut de Séoul, le think tank officiel de la capitale, a publié une étude sur les raisons qui poussent les Séouliens à délaisser la capitale pour s'installer dans la région métropolitaine. Eh bien, selon cette étude, la principale raison de leur départ est le problème de logement. En 2020, quelques 183 000 habitants ont quitté la plus grande ville de Corée du Sud à la recherche de meilleures conditions de logement. En deuxième position vient le mariage ou le regroupement familial, évoqué par 164 000 personnes. Il est suivi par le travail, puis par l'éducation des enfants. Par ailleurs, dans un sondage mené par l'Institut auprès de quelques 2 000 personnes ayant récemment déménagé de Séoul pour s'installer dans la province de Gyeonggi ou à Incheon, ou vice-versa, 31,4% ont considéré la superficie du logement comme le critère le plus important pour choisir leur lieu de vie. En effet, 62,5% des Séouliens qui ont rejoint la région métropolitaine ont réellement aménagé dans une habitation plus grande, alors que c'est le cas seulement pour 28,3% de ceux qui ont fait le chemin en sens inverse. Park Hyang-soo, président de l'Institut de Séoul, souligne qu'afin de contrer l'exode des Séouliens et de maintenir ainsi la compétitivité de la capitale, il est important pour les autorités d'offrir plus d'habitats de qualité, tout en agissant pour maîtriser les frais immobiliers des résidents de Séoul. Et pour notre première pause musicale, voici une chanson de Loy Kim intitulée « La lune de Séoul ».
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce lundi 16 mai. Le 2 mai dernier, la Corée du Sud a levé l'obligation du port du masque en extérieur en vigueur depuis le 13 octobre 2020 pour lutter contre la propagation du Covid-19. 2 semaines se sont écoulées depuis. Pourtant, la quasi-majorité des citoyens dans la rue portent toujours leur masque sur leur visage. C'est un phénomène étrange vu que beaucoup de Sud-Coréens avaient attendu impatiemment le jour où ils pourraient enfin se promener sans masque et respirer librement. Dans les milieux politiques, un bras de fer a même eu lieu entre le pouvoir et l'opposition concernant la date de fin de cette mesure. Alors, comment l'expliquer ? Il faut noter tout d'abord que le port du masque est toujours obligatoire en intérieur. Du coup, les gens préfèrent le garder pour ne pas avoir à le mettre, à l'enlever, puis à le remettre sans cesse. Certains justifient cette pratique par un principe de précaution. Kwon Eun-hee, une femme de 37 ans, estime que la fin de l'obligation du port du masque est prématurée, étant donné que le risque d'être contaminé ou de contaminer les autres est toujours présent. La professeure de psychologie à l'Université nationale de Séoul, Kwak Gumju, parle quant à elle d'un effet de conformisme qui incite les individus à adopter leur comportement de manière à s'aligner sur celui des autres. Dans la même veine, Lim Myung-ho, professeur de psychologie à l'université Dan-guk, évoque une certaine pression sociale et culturelle qui fait que les citoyens préfèrent rester anonymes, semblables aux autres, sans se faire remarquer au milieu de la foule. Cette attitude est en effet assez répandue dans les pays asiatiques, influencés par le confucianisme. Au Japon, où le port du masque en extérieur n'a jamais été obligatoire, ou à Singapour, où cette restriction a récemment été levée, il est toujours difficile de croiser des passants sans masque dans la rue. Enfin, la dernière raison, mais pas la moindre, c'est que beaucoup de gens ont découvert les avantages du port du masque et s'y sont habitués au cours des 2 dernières années. Il permet par exemple de cacher les défauts du visage ou de la peau, d'exprimer son ennui ou son mécontentement sans se faire voir, et pour les femmes, de négliger le maquillage au niveau du bas de visage. Voilà autant de raisons qui nous empêchent de nous débarrasser du masque même en plein air. Le 5 mai dernier, soit la journée des enfants, tard dans l'après-midi, sur un parking d'une plage de l'île de Yongju à Incheon, à l'ouest de Séoul, une banderole installée par les habitants affichait le message suivant. « Papa, ici, ce n'est pas une aire de camping, mais un parking ». On y trouvait toutefois quelques 130 véhicules stationnés et une 70aine de tentes installées, en plus de la fumée provenant des barbecues. Le lieu ressemblait en effet à une aire de camping. Au cours du long week-end du 5 au 8 mai, avec le pont du 6 mai, de nombreux parcs, vallées et montagnes, les plages du pays ont été pris d'assaut par les amateurs de ce qu'on appelle le chabak, soit le camping en voiture. Cha signifie voiture et bak signifie dormir en coréen. Ces vacanciers stationnent souvent leur véhicule sur un parking ou au bord d'une route pour y poser leur tente, cuisiner et passer la nuit. Ce nouveau mode de voyage, qui change de l'hôtel habituel, gagne du terrain en Corée du Sud depuis quelques années. Or, ces hordes de campeurs, qui parfois se garent dans des lieux interdits, génèrent des déchets, provoquent des nuisances sonores et constituent donc un casse-tête aussi bien pour les habitants que pour les autorités. Ils sont généralement mal vus par les commerçants, car au lieu d'utiliser les magasins et les restaurants locaux, ces touristes apportent la plupart du temps leur nourriture et cuisinent eux-mêmes. Ce camping sauvage, hors des aires autorisées, est certes considéré comme illégal au regard de la législation actuelle, mais aucune loi ne permet de sanctionner pénalement ces campeurs sur les plages ou les parkings, alors que le fait de camper et de cuisiner dans les forêts et les vallées est passible d'une amende en vertu de la loi sur la protection des forêts. Alors, les habitants se mobilisent eux-mêmes pour lutter contre le camping sauvage en voiture dans leur village. C'est notamment le cas des riverains des plages d'Ulwangli, de l'île de Yongyu à Incheon. Ils ont mis sur pied une équipe de patrouilleurs chargés de contrôler l'installation illégale de tentes ou les décharges sauvages de déchets. À Chungju, dans la province de Chungcheong du Nord, c'est la mairie qui a agi en installant des caméras de surveillance sur un parking près de Suju Pangbong, un endroit prisé par les campeurs et n'autorisant le stationnement que de 120 voitures par jour. Cette situation indigne les amateurs du camping. Un quinquagénaire nommé Zhang dit avoir été menacé d'une amende par des habitants quand il faisait du camping au bord d'une route dans la province de Gangwon. Il était indigné et que ne comprenait pas de quel droit et en vertu de quelle loi ces gens-là jouaient aux justiciers. Maintenant que le camping en voiture est devenu un mode de voyage à part entière et attire de plus en plus d'adeptes, les autorités devraient sans doute leur aménager davantage d'air et peaufiner la législation applicable en la matière. Et si jamais vous avez envie de partir, voici une chanson pour vous, intitulé « Voyage » et interprété par Bolpal Gan Sachungi. Monsieur X est végétalien depuis son enfance. En effet, il souffre d'une intolérance au lactose, c'est-à-dire que son corps ne peut pas complètement digérer le sucre du lait. Ainsi, il a opté pour un régime végétalien pour des raisons de santé. Mais au fil du temps, c'est devenu une conviction pour lui. Or, pour un délit commis, il a été incarcéré en avril 2020. Et en prison, il avait du mal à poursuivre son régime. Lors des repas, il a évité de prendre du lait et de la viande, et s'est nourri uniquement de légumes, notamment de pois et d'algues. Mais leur valeur nutritive était insuffisante. Sa santé s'est dégradée et il a commencé à perdre ses cheveux, le pauvre. Il a demandé à bénéficier de repas accompagnés de riz complet pour augmenter l'apport nutritionnel. Mais les autorités pénitentiaires ont rejeté sa demande. Finalement, un de ses proches a saisi la Commission nationale des droits de l'homme en évoquant une atteinte portée aux convictions végétaliennes de Monsieur X. Cependant, l'établissement pénitentiaire en question a rétorqué qu'il avait déployé tous ses efforts pour répondre à la demande de Monsieur X en lui fournissant des fruits trois fois par semaine au lieu des deux habituels ainsi que des racines de lotus et de la gelée de sarrasin comme il le souhaitait. La structure a également fait savoir que s'il ne lui avait pas servi du riz complet, c'était pour respecter les standards nationaux fixés par la loi sur le traitement des détenus des prisons du pays. Le 10 mai dernier, la Commission nationale des droits de l'homme a annoncé avoir rejeté la requête déposée pour Monsieur X en admettant que les autorités pénitentiaires ont tout fait dans la mesure du possible pour résoudre les difficultés auxquelles le détenu était confronté. La Commission a cependant annoncé qu'elle avait transmis au ministère de la Justice son avis sur la question selon laquelle il est nécessaire de mettre en place des menus appropriés aux détenus ayant des diverses convictions et réviser les lois concernées afin de leur garantir la dignité humaine, la liberté de conscience et le droit à la santé. Bref, la Commission a estimé que le droit à l'alimentation fait partie des principes fondamentaux d'un individu et qu'un régime alimentaire adéquat doit lui être garanti, qu'il soit détenu ou autre. D'ailleurs, le regard sur les végétaliens et leur prise en charge ont évolué dans la société sud-coréenne ces dernières années. Fin 2019, le ministère de la Défense a inscrit dans les règlements de l'armée un article prévoyant l'introduction de menus végétaliens dans les cantines militaires. En novembre dernier, le comité des droits de l'enfant de la Commission nationale des droits de l'homme a recommandé une prise en compte des enfants suivant un régime similaire dans l'élaboration des menus des cantines scolaires. L'Orchestre Philharmonique de Séoul, fondé en 1948 et basé dans la capitale sud-coréenne, est l'un des orchestres les plus prestigieux et les plus anciens du pays du matin clair. Cette formation a lancé le mois dernier un nouveau projet qui consiste à publier sur sa chaîne YouTube tous ses concerts réguliers donnés depuis l'année 2020. Ainsi, elle a mis en ligne jusqu'à présent une quarantaine de vidéos captées lors de ses concerts, dont notamment ceux consacrés aux symphonies de Beethoven et de Sibelius, dirigé par son chef d'orchestre principal, Osmo Vanska. Depuis quelque temps, les principales formations orchestrales du pays cherchent à renforcer leur présence sur YouTube et à ouvrir ainsi ses présentations à un public plus large qui n'est pas forcément habitué aux salles de concert. L'orchestre symphonique de la KBS en fait partie. Il a publié sur sa chaîne YouTube depuis mars dernier une vingtaine de ses concerts dans leur intégralité. On y trouve par exemple des symphonies de Mahler ou de Bruckner, des œuvres magistrales qui durent plus d'une heure. Ces vidéos sont proposées en haute qualité au format 4K et elles sont accessibles sans publicité, même pour ceux qui ne sont pas abonnés au service YouTube Premium. En effet, l'utilisation de ces plateformes de vidéos par les orchestres sud-coréens ne date pas d'hier. La plupart d'entre eux disposent déjà depuis des années de leur propre chaîne et ils publient des vidéos de leurs concerts et des clips promotionnels ou éducatifs. L'Orchestre Philharmonique de Séoul a par exemple mis en ligne une série de vidéos visant à présenter les différents instruments de musique de l'orchestre ou des clips ludiques destinés au jeune public intitulés « Alice au pays de la musique ». L'orchestre symphonique de la KBS propose également via sa chaîne YouTube des interviews de ses directeurs musicaux et de ses chefs invités, ainsi que des annonces de ses représentations. Enfin, quant à l'orchestre symphonique national de Corée, il publie en ligne depuis plusieurs années non seulement des contenus en avant-première, mais aussi certains de ses concerts en entier. Simplement, ce qui est nouveau, c'est que ses formations musicales cherchent désormais à partager sur la toile leurs concerts de manière plus systématique et plus exhaustive et a créé une véritable salle de concert virtuelle. Pour l'heure, ils ne diffusent pas ou pas encore leurs concerts en direct aux internautes comme c'est le cas en Allemagne de l'Orchestre Philharmonique de Berlin avec son Digital Concert Hall. Chacune des formations fixe en effet différentes limites à leur offre en ligne selon leur stratégie car cette facilité d'accès aux concerts en ligne peut aussi bien attirer un nouveau public que dissuader les mélomanes de se déplacer dans les salles de concert. Et avant de passer le micro à Lee Ji-eun pour Focus Asie, je vous propose de faire une dernière pause musicale avec une chanson de Kim Dong-liul intitulée Replay.
Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asie. Notre première destination est Hong Kong, où le cardinal pro-démocratie Joseph Zen a été arrêté puis libéré sous caution. La police hongkongaise a mis en détention l'ecclésiastique de 90 ans mercredi dernier avec trois autres personnes en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Elle les soupçonne d'avoir mené une collusion avec des forces étrangères. Joseph Zen, ardent défenseur de la démocratie de Hong Kong, a joué un rôle actif dans le mouvement de parapluie en 2014 et la manifestation anti-gouvernementale en 2019. L'évêque émérite et d'autres individus arrêtés ont été relâchés sous caution quelques jours plus tard. Cette arrestation intervient trois jours après l'élection de Jun Li, ancien ministre de la Sécurité pro-chinois au poste de chef de l'exécutif. Une femme d'origine népalaise a réussi jeudi dernier sa 10e ascension du mont Everest pour la première fois pour une alpiniste féminine. Lakpa Sherpa a ainsi battu son propre record. Selon le journal Himalayan Times, la femme âgée de 48 ans est une mère de 3 enfants et femme de ménage dans une grande surface aux États-Unis. Ayant grandi dans la région du Makalu au Népal, Sherpa s'est initiée à l'alpinisme en travaillant comme porteuse des grimpeurs. Bien qu'elle n'ait reçu aucune formation officielle, elle a atteint le sommet de l'Everest en 2000, une première pour une Népalaise. Après son immigration aux États-Unis, elle a continué à escalader le toit du monde et elle a réussi même cet exploit quand elle était enceinte de 2 mois. L'escaladeuse a souvent affirmé qu'elle gravissait les montagnes pour encourager toutes les femmes du monde à réaliser leurs rêves. Déplaçons-nous en Inde. Un couple indien a porté plainte contre son fils et sa belle-fille pour ne pas leur avoir donné de petits-enfants après 6 ans de mariage. D'après Aninews, le fonctionnaire retraité de 61 ans, Sanjib Prasad, a indiqué que lui et sa femme avaient dépensé la plupart de leurs économies pour la formation de pilote de son fils aux États-Unis et qu'ils étaient malheureux car ils n'avaient toujours pas de petits-enfants. Les parents ont réclamé à leur fils d'avoir un bébé, peu importe le sexe, d'ici 1 an. Sinon, ils lui demanderont de rembourser 50 millions de roupies indiennes, soit 620 000 euros. Le montant inclut les frais d'études, le coût du mariage dans un hôtel 5 étoiles et le prix de la voiture qu'ils lui ont offerte. Le tribunal a prévu l'instruction demain pour écouter les avis de chaque partie. Nous nous dirigeons en Chine. Un Chinois a dû payer près de 4800 yuan, soit 675 euros dans un salon de coiffure pour une permanente et un coiffage. L'homme surnommé Liu s'est rendu la semaine dernière dans cette enseigne située à Hangzhou dans l'est de la Chine. Le coiffeur a expliqué que le service était censé coûter près de 400 yuan ou 56 euros, mais finalement il lui a facturé une somme 12 fois plus élevée que prévu. La raison, il a divisé son cuir chevelu en 12 sections et a coiffé chaque partie. Liu a protesté contre ces tarifs, mais sous la menace des employés, il a versé ce montant contre son gré. À la suite de sa signalisation, la police a ouvert une investigation et il s'est avéré que le salon en question a arnaqué d'autres clients en raison des coûts de matériel et de la main-d'œuvre. Voici notre dernière nouvelle. Une géante longue de 4 mètres a récemment été attrapée dans le fleuve Mekong dans la province de Stung Treng, au Cambodge. Il a avalé un poisson plus petit qui avait mordu à l'hameçon. Les pêcheurs ont immédiatement alerté Wonders of the Mekong, fondation de la protection de l'écosystème, et ses scientifiques sont venus mesurer ce spécimen. Le poisson d'une largeur de 1,85 m pesait 180 kg. Rien que sa queue était longue de 2 mètres. Après les analyses, le poisson a été remis à l'eau. Selon le Fonds mondial pour la nature, la raie du Mekong est l'espèce du poisson d'eau douce la plus grande et lourde au monde.
Voilà, ainsi s'achève votre magazine sur le jour, en espérant que cette édition vous a plu. Rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Che Soyeon à la rédaction, Franck Atlani au micro et Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite une excellente semaine.